Plus de rhum, plus les capables, plus politique, plus rapide, de si et d'ailleurs. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Sommes-nous cet assemblage temporaire, cet agrégat qui virevolte dans l'univers? Sommes-nous ces quelques vibrations cognitives, plus ou moins volontaires? Pourquoi chercher à savoir ce que nous sommes, qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons?
Très bonne question.
Pouvons-nous même le savoir? Cette question-là résonne à l'intérieur de mon esprit, se multiplie. Et les Nicolas se questionnent. Et peut-être même le Nicolas le plus fondamental se demande, mais qu'est-ce que même savoir? Qu'est-ce que cet acte violent, cette attaque viscérale contre le phénomène qui nous pousse à vouloir ouvrir ses entrailles et regarder cette chose pulsante, surgissante à l'intérieur, l'arracher pour l'épingler dans un petit catalogue bien catégorisé? Eh bien, j'ai une surprise pour vous ce soir, les amis. J'ai épinglé des parties de mes entrailles. Des Nicolas, une multitude de Nicolas, pour le source 555. Et vous allez m'entendre que moi ce soir, mais des facettes, des parties, des petits bouts d'entrailles gigotantes. Vous savez, comme les petites collections d'insectes cruels de ces enfants qui épinglaient ces abeilles, ces frelons, ces papillons, qui gigotaient. Regarde ma collection, regarde! Je fais de la science. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Nous allons rechercher, nous allons trouver, et nous allons espérer brutalement connaître et savoir qui suis-je.
N'avons-nous pas tous déjà épinglé quelques frelons?
Voilà.
Que donc, celui qui n'a jamais épinglé de frelons me lance la première épingle. J'aimerais en profiter pour immédiatement mettre quelque chose, faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on me demande.
Ah oui?
J'ai décidé d'accepter de le faire aujourd'hui.
Mais voyons toi, Nicole.
Marianne, je te libère!
Enfin!
Voilà.
Wow. Va, Marianne, enfin. Poursuis tes rêves.
Non, reste!
Cours dans la rue, sauve-toi.
Je l'entends déjà faire ses valises.
Vous voyez l'ambiguïté des personnalités de l'être. Je veux qu'elle parte, je veux qu'elle reste. Je veux être autre, je veux être pareil. Donc...
Elle en a assez enduré.
Alors... Tant de choses qu'on endure, mais n'est-ce pas justement cette adversité qui nous rend plus forts, qui nous rend plus beaux, qui nous rend plus vaillants, heureux?
C'est vrai, c'est vrai.
Et là, vous allez vivre l'adversité ce soir, l'adversité de devoir endurer toute cette émission, toutes ces facettes, tous ces crânes reluisants devant vous. Et puisque nous avons une grosse soirée ce soir, je pense qu'il faudrait se lancer sans plus attendre, parce que nous avons une multitude de sujets à connaître, à épingler dans notre petit scrapbook de savoir. Alors, je pense que sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas ce soir.
Oh, yeah!
je pense que Nicolas
va commencer et terminer l'émission même. Qu'en dites-vous?
Je suis d'accord.
Oui?
Oui, d'accord?
S'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut mettre les bruits de la
lampe? Qu'on soit sur le pont.
Alors, on va commencer en fait avec Nicolas, qui va nous parler. De quoi tu vas nous parler, Nicolas? De misophonie, si je ne m'abuse?
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant de se questionner.
Alors, tu as 5 minutes.
Ah, d'accord, je commence immédiatement. La misophonie, hein, un mot qui sonne drôlement à nos oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que ça a rapport avec être funny?
Non, en fait,
ça doit venir du grec.
Ça a rapport avec être miso?
En fait, oui, ça vient du grec, je pense. En fait, c'est la peur du son. Miso qui veut dire peur et phonie, le son. La peur du son. En fait, c'est une affection.
Miso, ça ne veut pas dire haine?
Haine. OK, c'est correct. Merci de me corriger.
Non, mais c'est bien. C'est...
Je ne l'avais pas noté, mais je l'avais lu quelque part.
Mais la soupe miso, là...
Je pense que ce n'est pas la même racine, celle-là. Mais en fait, bref, là, on va sauter tout de suite.
Je m'appelle Nicolas, je suis misogyne.
Dans le vif du sujet, alors, c'est une affection du système nerveux, le saviez-vous?
Ben
et
oui,
qui se manifeste par une hypersensibilité au son, aux bruits produits par autrui et qui sont jugés habituellement normaux dans un environnement humain. Mais qu'est-ce que la normalité?
La grande question à laquelle on revient toujours.
C'est pourquoi je vais définir quels sons spécialement font réagir les personnes atteintes de misophonie. Alors, ces sons impliqués ont le point commun d'être répétitifs, provoquant une réaction aversive immédiate avec une anxiété, une colère, un sentiment de dégoût important.
Comme nos chroniques, par exemple.
Par exemple.
C'est un peu ça. C'est
ça crée de la misophonie.
C'est redondant. Moi,
des presses à la maison.
Ils sont miso d'eux-mêmes, je le dis toujours.
Ouais, tout le monde est miso ici. Accompagné d'une envie impulsive de faire cesser ce bruit de manière immédiate afin de soulager ses symptômes et de tenter désespérément de quitter les lieux.
Soulager des culottes.
Alors, justement, c'est un état chronique parmi, et parmi les bruits qui font réagir la personne atteinte, on compte surtout les bruits gutturaux, nasaux, buccaux. Par exemple, la déglutition. Les bruits faits en buvant et en mangeant, la mastication. Comme ce bruit-là va activer les gens qui sont, qui sont atteints de misophonie. Respiration, bâillement, sifflement, toussotement, des accents parfois, hein, les airs roulés ou gutturales, certains diphtongues peuvent provoquer ces sentiments de panique et de colère.
Est-ce que ça serait pas là une forme de racisme?
Ben, c'est étant donné que c'est profondément ancré dans,
dans
le système nerveux. En fait, est-ce que, vu que c'est les personnes qui ont de la misophonie, c'est pas de leur faute. Okay. En fait, c'est leur système qui est déréglé. Alors,
il n'y a pas un billet misophone.
Ce sont des victimes.
C'est dur à dire. Parce que oui, effectivement, ça pourrait être... tu sais, imaginez, par exemple, quelqu'un qui a un tic, hein, qui fait toujours les mêmes bruits, puis que là, la personne qui a de la misophonie va le rejeter. Est-ce que c'est de la discrimination? Finalement, tu sais, va dire je veux pas travailler avec cette personne-là parce qu'elle fait des bruits avec sa bouche. Donc là, ça peut être une personne qui fait des bruits avec sa bouche, mais sans s'en rendre compte, puisque c'est aussi atteint dans le système nerveux. Hein. Il y a des gens qui ont des tics et dont c'est difficile de se débarrasser.
Mais qui gagne dans ce temps-là si c'est de la faute de personne dans cette situation-là?
C'est ça,
par
parce que tu sais, j'ai commencé à développer moi-même des tics et on me les a fait. T'sais, on m'en a donné conscience et je les ai corrigés, j'étais reconnaissant.
Lorsqu'on enseigne, par exemple.
Ça m'amène un peu à l'idée de est-ce qu'on peut guérir, en fait, de la misophonie? Est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Parce qu'il ne fait aucune distinction de genre ni d'âge parmi les gens qui en souffrent. Et un élément intéressant aussi, c'est que souvent les gens qui ont de la misophonie, en fait, ils ne vont pas trouver désagréable les bruits de bouche faits par des animaux ou des enfants. C'est exclusivement, étrangement, ou presque exclusivement, les sons produits par des adultes.
Étonnamment, moi, c'est juste les bruits de mon chat qui m'écœurent profondément.
Wow! Alors, t'es le contraire.
C'est un peu de la misophonie, de la misophonie, si vous me permettez l'expression.
Mais là, Nicolas, peut-être que, peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, je sais peut-être que je mélange deux concepts, mais tu sais, on sait que les autistes, souvent, ont des sons qui viennent les chercher au plus profond de leur âme et qui ne sont pas capables de vivre. Par exemple, j'avais fait un reportage une fois sur un jeune autiste que quand il entendait des sons aigus, supposons du métal qui cogne sur du métal, ben, ça le rendait complètement agressif. Est-ce qu'on est dans la même zone, Nicolas?
Ben, je pense que c'est dans la même zone neurologique, mais étant donné que les troubles du spectre de l'autisme sont déjà étudiés puis ont d'autres raisons, en fait, la misophonie ne va pas être nécessairement associée en fait, aux gens qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme.
Merci, Nicolas, pour ta réponse.
Très bien.
Tu restes 30 secondes, Nicolas.
Très bien. Alors, je vais embrayer. En fait, comment qu'on règle ça, en fait, puis qu'est-ce qui provoque la misophonie? Donc, il y a plusieurs théories. Entre autres, il y a une étude de 2013 qui suppose qu'une évaluation anormale des signaux neuronaux se produit dans le cortex singulaire antérieur et le cortex insulaire. Ces cortex sont également impliqués dans le syndrome de Gilles de la Tourette et influencent la colère, la douleur et l'information sensorielle. Ça, c'est une hypothèse qui pourrait expliquer ça. Mais comment régler? Parce que là, il y en a d'autres, j'ai pas le temps de toutes les dire. Mais comment régler ça? Est-ce que ça se guérit? Eh bien, il n'y a pas de remède miracle, malheureusement, contre la misophonie.
Comme peu de choses.
C'est essentiellement grâce à la thérapie cognitivo-comportementale qu'on peut réduire les effets de la misophonie. Hein, avec un traitement cognitivo-comportemental, on peut soulager jusqu'à 30% finalement chez les patients, permettant des techniques...
C'est beau.
Des techniques, par exemple, de contre-conditionnement, améliorer la gestion du stress grâce au sport et à un meilleur sommeil, faire l'apprentissage de l'attention en empêchant la focalisation excessive.
Excessive. Ah ouais, c'est ça.
Fascinant.
Ah. Alors, c'est fascinant, en effet, parce que c'est une réaction involontaire de haine, souvent liée à une réaction involontaire d'un tic de l'autre.
Exact.
C'est vrai,
puis
ça,
tantôt, on parlait des gens qui sont sur le spectre de l'autisme, finalement. Mais les gens qui sont sur le spectre de l'autisme peuvent aussi parfois faire des bruits répétitifs, par exemple, contre leur volonté.
Est-ce qu'on peut être misophone de soi-même?
C'est vrai,
ou est-ce qu'on peut être misophone de quelqu'un qui ne peut pas s'en empêcher? Alors là, ça devient une espèce de
travail.
En club, blanc, je veux juste finir rapidement. Il y a une étude qui a permis de créer, en fait, là, une étude de la misophonie et une échelle de calcul pour savoir si vous êtes atteint de misophonie. Ouais. C'est une échelle qui s'appelle le Amsterdam Misophonia Scale. Et les scores de 0 à 4 sont considérés comme non significatifs de misophonie. Puis ça peut aller jusqu'à 20 ou 24 de points. Qu'on considérait comme des signes extrêmes.
Ça va aller
donc.
Moi, je ne peux pas guérir de la misogynie.
Ben écoute, merci énormément, Nicolas.
Merci, Nicolas.
On a beaucoup appris.
J'avais l'impression de m'entendre moi-même. Misologie.
On n'a rien appris, mais c'était très intéressant. C'était bien dit.
Nicolas, on peut-tu guérir d'être là comme un cul?
Je me demandais, puisqu'on est évidemment un collectif de moi-même, est-ce qu'on veut s'évaluer à la toute fin pour ne pas polluer l'évaluation subséquente ou est-ce qu'on s'évalue à mesure?
C'est comme ça. Moi, j'ai commencé à comparer les uns aux autres.
Déjà qu'on pollue assez le visuel.
Mais moi, ça va me pénaliser. J'ai commencé. On va tous m'oublier dans trop de
temps. Ben non, comment oublier une si bonne chronique, Nicolas?
Nicolas, j'imagine que tu vas prendre
une note. Vous êtes charmante.
Oui, parce qu'évidemment, moi, je pensais faire un agrégat de vos notes dans le fait où est-ce qu'on centre critique. Parce que vous savez, la critique, c'est essentiel. Parce que chercher un peu à découvrir ce qui cloche sur nous, il faut regarder dans ce que nous étions pour cette personne-là qui n'est pas encore. Mmh. Et donc,
je pense que un beau camailleux de nos performances là, va créer un tableau magnifique.
Ouais. Agrégat et camailleux.
Oui.
Agrégat et camailleux. Ça donne des...
Ben écoutez, moi, je dis et je pense que le sentiment collectif, c'est qu'on va tous s'entendre collectivement.
Bien sûr.
Puis ensuite, on pourra vraiment avoir une meilleure idée de la note générale qu'on se donne à chacun.
Okay.
Est-ce que ça vous va?
C'est
une bonne idée,
Nicolas.
C'est une riche idée.
On pourrait s'enculer en rond quand même.
Voyons, Nicolas, qu'est-ce qui se passe?
Mais il y a plusieurs parties à soi-même, c'est important. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux.
Comme un human centipede dans le cul.
Voyons, Nicolas.
Et parlant de ne pas trop se prendre au sérieux, qu'est-ce que vous diriez si on parlait un peu de poésie?
Ça,
c'est pas sérieux.
Très bonne idée.
Ben non, la poésie, c'est l'humour de l'âme. C'est le chatouillement, c'est la plume dans les cortex cérébraux.
Oh,
les cortex cérébraux, ça j'aime
les
ça.
Les cortex, bien sûr.
Alors, je t'écoute, Nicolas. Tu peux partir le thème.
Oui, bien sûr.
Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes.
Oh! On a un appel. Attends un petit peu, Nicolas. C'est très classique. Aussi.
Ben oui.
Ça fait partie de l'expérience, Nicolas.
On ne pourra pas faire ta chronique.
Oui, vous êtes à sauce 555. Juste quand on veut parler de poésie, c'est merveilleux.
Oui, c'est l'univers qui est poète là, en ce moment.
Je suis à une gang des expos.
Ça existe encore.
Oui, je suis avec Philippe. Allô.
Allô, tout le monde.
Allô.
Allô, Philippe! Oh mon Dieu! Il n'y a pas juste Philippe, allô! Il y a Bergazou, Fibou, il y a Gigi Lamoroso, et la mouche Tsetsin! Oh non, j'ai fait dans mon Titi!
Oh non!
Mais pourquoi tu nous appelles? Qu'est-ce que tu as de bon à nous dire?
Je veux faire ma chronique de 5 minutes comme Nicolas le lépreux!
Ben oui! Ok, je te pars ton sablier, Klaxon, tu peux y aller!
Alors, moi, bonjour tout le monde, bienvenue aux 5 minutes du Klaxon du samedi. Aujourd'hui, je vais vous parler du lac Titicaca!
Bon!
Ah, très intéressant!
Oh, et mon beau lac! Une fois, je suis allé au lac Titicaca et me suis décroté le nez!
Mais c'est le fun, ça, décrotter.
C'est un beau souvenir.
En altitude.
Oui.
C'est vrai que c'est un drôle de nom, hein.
Le petit caca est situé sur la frontière de la Bolivie et du Pérou.
C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui.
C'est bon,
c'est
bon,
c'est des faits.
T'es bon, klaxon.
Oui. Et le mot titi caca, on dit que ça signifie roc de puma.
Roc de puma?
Roc de puma. Moi, j'ai déjà vu un puma. Savez-vous ce que je viens de faire?
Non.
Je lui avais tiré les moustaches. Oh non, j'ai fait caca sur Nicolas.
Est-ce que le titi caca ne serait pas le roc du puma, donc?
Hein?
Vas-y, continue, klaxon.
Bon, le lac Titicaca est le plus grand lac d'eau douce en Amérique du Sud en volume d'eau.
Ah oh ben.
Hey, riez plus fort que ça.
Incroyable, incroyable.
Attendez pas bon que je le dise au miel.
Non, dis-le pas au miel.
Oh non, surtout pas.
Je vais le dire au miel!
Non, s'il te plaît!
Es-tu rendu normal à mort, toi, là?
Je vais tout coller! Alors, oh non, j'ai de la peine pour le lac Titi Caca! J'ai trop de peine! Non!
Mais non, klaxon! Mais non, voyons!
Oui, je vais pleurer parce que le lac est trop pollué!
Oh non! Franchement!
Le lac Titi Caca est plein de caca! Oh non!
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Lâchez-le, maudit! Le lac Titicaca, on peut rien faire à part le boire!
Oh, mais c'est pas grave, tout va disparaître, klaxon!
Le lac Titicaca!
Le temps détruit tout!
Oh non!
C'est pas grave, c'est comme un gros caca dans le lac!
Pauvre Nicolas!
Alors, je pleure aussi parce que l'eau du lac Titicaca, oh non, elle s'évapore!
Ben, ça, c'est normal.
C'est
Oh non, le lac Titicaca est rendu dans le ciel.
C'est le grand cycle de l'eau, ça, klaxon.
Oh non, il est rendu avec Guillaume le Métivier.
Non, non, dans le ciel.
Non.
Ces gars-là, c'est des dieux, man.
Oui, et sinon, je vais vous nommer, pour terminer, un animal qui est dans le lac Titicaca.
Ah oui, c'est intéressant, ça.
Alors, Roma Tabou, pour l'animal qui est dans le lac Titicaca, c'est la grenouille.
Ah.
Ben, c'est surprenant.
Ben oui.
C'est qui l'aurait cru?
C'est moi qui ressemble. Ben,
merci.
Nicolas Axon fournit la roc.
Ouais. Excellent. Très bonne chronique.
Au revoir.
Ça fait du bien. Eh oui. Bon, ben là, malheureusement, Nicolas, on n'a plus beaucoup de temps pour ta chronique. Là. Dépêche-toi.
Oui, je vais me dépêcher. Mais de toute façon, j'avais pas grand-chose. Je suis submergé de corrections, puis je suis coordonnateur d'un département. Donc, la poésie. Aujourd'hui, saviez-vous que c'est la journée internationale de la poésie?
Bien sûr.
On sait tout.
Il y a un poème dans ma couche. Qu'est-ce que la poésie, en fait? Hein, la poésie, c'est un genre littéraire très ancien, okay, mais aux formes assez variées. À partir de quand un texte est un poème? C'est ça, on peut se poser la question.
C'est l'intention qui compte.
Quel texte est un poème, ou le potentiel d'être un poème, s'il est bien déclamé.
Ça serait donc par la façon de le déclamer.
Je pense qu'il y a une manière de lire n'importe quoi pour que ça devienne une forme de poésie.
Moi, je pense que c'est dans l'intention de l'auteur.
Bien dit, Nicolas.
C'est bon. Sa relation avec les émotions.
C'est toutes des très bonnes pistes. Je ne suis pas surpris que tous les Nicolas aient des bonnes réponses comme ça. Effectivement, la poésie, en fait, ça vient du grec « poésis » et le verbe « poéin » signifiait « faire » ou « créer ». Donc, le poète, c'est un créateur, un inventeur de formes expressives. Et puis, dans l'Antiquité, n'importe quoi qu'on écrivait était qualifié de poétique. Tu avais créé quelque chose.
La poésie d'Aristote.
Un discours, du chant, le théâtre, tout ça, c'était de la poésie, automatiquement. Mais, étant donné qu'on ne peut pas vraiment savoir avant l'Antiquité, est-ce qu'il y avait des poèmes, mettons, dans la préhistoire?
Le chant de Gilgamesh, c'est un long poème épique, non?
Bien dit, Nicolas.
C'est effectivement ce qu'on dit comme étant un des premiers poèmes. Épique. Et là, dans ce temps-là, les poèmes étaient surtout utilisés pour la religion. Les rimes aidaient à se rappeler, les vers avec un nombre de pieds aidaient à garder les choses en tête. Puis éventuellement, ben, dans Aristote a commencé à penser à quels sont les genres de poésie. On va raffiner un peu tout ça. Puis la définition, ben, il a séparé ça en poésie épique, poésie comique, poésie dramatique.
C'est un grand systématisateur.
Ben voilà. Mm-hmm. Mais là,
j'allais le dire, Nicolas.
Éventuellement, il y a d'autres théoriciens de l'esthétique qui ont dit trois genres devraient être retenus. L'épopée, la poésie lyrique et la dramatique qui inclut la comédie et la tragédie.
Mais là, on a le théâtre là-dedans, là, tu disais. Là.
Exact, ah, exact.
Ben, je comprends mieux, là.
Ben voilà. Puis, ben, au départ, on utilisait les vers pour dire c'est de la poésie, puis on sépare ça de la prose, qui est juste de l'expression commune. Mais éventuellement, au 20e siècle, ça devient beaucoup plus différent. Ben plein de poèmes, en fait, sont juste des phrases normales avec des retours de chariot à tous les trois mots aléatoirement.
Exactement.
Puis là, ça, c'est un poème, ça, marrant, ça a l'air. Donc, voilà. Donc,
tu passes sur la touche entrée assez fréquemment. Tu écris de la poésie.
Tu es un poète, et voilà, exact.
C'est ça.
Mais la poésie, est-ce que c'est obligé d'être absolument un texte? Est-ce que c'est obligé d'être des mots, même?
Mais non, parce qu'à l'origine, c'était...
Des hiéroglyphes.
Des hiéroglyphes, exact, des dessins.
Ça pourrait être des odeurs.
Une odeur poétique. Un poème en odeur.
Donc, à penser à Cauvreau.
Exact.
Ou tout ça. Toi.
Ça pourrait être une couche. On entend souvent parler de la notion de justice poétique.
Ah oui, souvent.
La justice poétique, c'est tout simplement le lien inévitable mais nécessaire entre une mauvaise action et sa sanction, à brève ou longue échéance.
Ben oui.
Puis, éventuellement, c'est... un peu un synonyme de l'ironie du sort, où quelqu'un récolte ce qu'il a semé immédiatement d'une façon poétique. Par exemple, des terroristes qui sont en formation puis qui fabriquent des bombes puis qui apprennent à fabriquer des bombes. Puis là, il y en a un d'entre eux qui les fait tous exploser. On va dire justice poétique.
Oh,
et pourtant, là-dedans, il n'y a eu aucun mot.
Non, c'est vrai.
Moi, je suis du bord des terroristes.
Donc, la poésie... oui, merci, Nicolas. La poésie, donc, serait plus, en fait, dans les émotions qui sont véhiculées par l'image, qui peut... être quelque chose qui est déclamé, qui est dit, qui est écrit, mais qui peut aussi simplement être observé.
Ben oui, comme le fameux sac qui part au vent.
Ben
là,
voilà.
Exactement.
Voilà, dans American Beauty. Voilà, on est cinéphile.
S'il en est une image poétique, c'est bien elle.
Ben moi, je serais aride, mais j'oserais dire que je classe dans poésie ce que la populace ne comprend pas du premier coup. Ah, voilà,
Donc l'algèbre potentiellement.
J'aime où ton cerveau s'en va, Nicolas.
Mais oui, c'est bien parce que c'est encore dans le rapport à la chose et non dans la chose qu'on trouve.
Exactement.
Et l'humour et la poésie.
C'est une ouverture au monde, la poésie.
Exactement.
Je suis cinéphile, mais je suis aussi coprophile.
Oui, ben oui.
Hey, c'est le fun, le savoir.
C'est le fun. Ça fait-tu du bien?
Des gens qui savent de quoi on parle.
Il reste des gens à l'écoute, là.
Je mange ma merde.
Hey, riez-vous à la maison?
C'est sûr.
Mais en date, sur Internet, il n'y a aucun commentaire. Continuez comme ça.
Les gens écoutent, enfin.
Voilà, Nicolas. C'est quelque chose qui se perd, l'écoute. Il faut prendre un temps. Arrêtez de commenter et vivre.
Exactement. Lâchez vos écrans.
On vit dans le passé quand on commente et pas dans le présent.
C'est vrai.
Voilà.
Déjà qu'il y a un lag.
Dans le passé, comme les Grecs.
Et parlant de Grecs, Nietzsche disait justement, quand on veut être le héros et qu'on veut vivre, il ne faut pas être dans le cœur. Il faut même pas savoir chanter en harmonie.
Voilà, Nietzsche, le grand grec.
Ben oui, Nietzsche.
J'aurais une petite question poétique pour faire suite à ce que Nicolas nous a donné sur la poésie. Merci beaucoup sur la poésie.
C'est terminé déjà?
Oui,
c'est déjà terminé. Moi, de la poésie, je prendrais ça.
Je me suis dépêché.
Moi, j'en prendrais encore. Moi, de la poésie, j'imagine ça, là, comme ça. Ah oui, je veux de la poésie. Je veux de la poésie. Je sens toute la poésie.
Ben écoute, Nicolas, j'ai de la poésie pour toi.
C'est vrai?
Une question poétique.
Ben voyons.
Poétique, philosophique.
Est-ce qu'elle est juste?
Pourquoi l'écume sur la vague se croit-elle à tort supérieure?
Parce qu'elle est au-dessus,
elle est au-dessus
de l'eau, physiquement, là.
Elle
est, c'est la crème.
Elle est aussi au-devant.
Mais elle ne réalise pas que sans la vague, elle n'existe pas.
Voilà. Waouh, on est un peu intelligent.
On est en belle
cinéphilie.
On s'auto-Nicolas.
En belle cinéphilie. Il n'y a pas de personnage pour nous interrompre.
Oui, ça fait
bien. Il y a juste des gens qui savent, qui aiment le savoir.
Qui renchérissent.
En nylon.
Au lieu de
ça, c'est la meilleure.
C'est l'aérodynamisme. C'est sûr que ça aide à passer à travers toutes les mauvaises choses.
Les idées circulent à une vitesse folle.
Voilà. Et parlant d'idées qui circulent à une vitesse folle, je pense qu'on va continuer avec des éléments de Nicolas qui nous aident parfois à transformer notre esprit, transformer nos pensées, les faire changer de perspective. Je pense que Nicolas a une chronique sur les psychotropes.
Oh!
absolument.
Très bonne idée.
Ça, ça moi,
attends un petit peu, on va partir la tour.
Ben oui,
là,
mets ton thème.
Absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes.
OK.
Je ne sais pas ce que tu comptes faire, Nicolas, au niveau du temps, mais là, il y a une injustice déjà.
Oui, oui, je vais calculer un buffer.
Parce que moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'amorce un grand dossier.
Ben voyons. Mmh.
Ah, enfin!
Un grand
dossier.
J'imagine que effectivement, tu vas le terminer rapidement,
effets,
ce dossier-là,
des psychotropes. Puis là, je sais que c'est un danger, c'est un sujet intéressant, donc danger, mais ne vous inquiétez pas. Mmh. Je vais descendre à un niveau là, qui est cellulaire, purement. On commence au niveau
ben oui.
Des cellules. Ça hein?
Commence, là,
donc, vous savez, le nom
j'ai un cellulaire plein de porn pédo.
Oui, Nicolas. Donc, vous savez, le nom des cellules nerveuses, ce sont les neurones.
Mm-hmm. Oui,
et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a des milliards, mais aucun ne se touche. Donc, quand on dit à l'expression « les fils se touchent », ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé.
Mm. Marianne, elle ne me touche pas.
Ça fait longtemps, alors, oui, c'est sûr.
Oui,
c'est
pour je
ça
sais, que je les libère. Marianne ne nous touche pas. Alors... Alors, l'espace entre les neurones, ça s'appelle la synapse. Alors, la synapse, oh là, ça, c'est fascinant. C'est fascinant.
On aime les synapses.
Je vous ai sorti des vieilles notes d'université.
Oh, mon Dieu, arrête, oui. Arrête donc, là.
Bien
c'est
sûr, bien sûr, bien sûr.
Tu nous gardes.
Je trouve fasciné.
Ben oui. Faute d'être aérodynamique, hein, parce que je trouvais ça très conformiste là, d'avoir la même tête
bien
que
sûr,
tout le monde.
Mais il y a des parties de moi qui ont encore des cheveux.
Exact. Ben oui, effectivement.
Des parties
donc,
qui ont des notes d'université.
C'est ce qu'on voit en ce moment. Alors bon, la synapse,
la tête dans ton
qu'est-ce frigidaire. Que c'est? Alors c'est une jonction d'échange de neurotransmetteurs.
Oui,
alors ce qui se passe en gros là, c'est que, on va regarder, d'ailleurs je vais vous montrer un beau schéma là, parce que tout est plus agréable avec un beau
visuel.
Schéma, n'est-ce pas? Mon cher Jonathan, il va nous sortir ça, vous allez voir, tout va devenir très 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 clair.
Ah!
Voilà, c'est très très clair maintenant.
Vous êtes par cette clarté.
Hey, c'est drôle parce que je comprenais déjà, mais là on dirait que je comprends encore plus.
C'est merveilleux, n'est-ce pas?
C'est fou. Hein?
Ouais. Alors un neurone, ça reçoit un influx d'électricité, voilà. Une décharge, par exemple, on se cogne. Bon, décharge, et là, les neurones se parlent. Et la façon qu'ils se parlent, c'est qu'ils vont transformer cette décharge électrique en neurotransmetteur, en messager chimique qui nous dit c'est quoi l'émotion qui s'en vient jusqu'à notre cerveau et quelle réaction avoir. Et donc, la synapse, qui est la jonction entre deux neurones, c'est là que des petits messagers chimiques vont voyager. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que, par exemple, bon, supposons que, voilà, je me calme. Alors, le neurone va dégager des neurotransmetteurs qui seront probablement des GABA, n'est-ce pas, des GABA. Je pourrais
GABA.
Vous en expliquer la liste, là, mais c'est clair, c'est des exemples fun, donc je pense que je vais sauter. Par exemple, il y a des gens qui, dans la vie, ils aiment courir, je ne sais pas trop. Là,
très étrange.
Aiment courir, c'est très étrange.
Hein. Une sorte de drogue. Hein.
Oui, oui, c'est effectivement une sorte de drogue. C'est une addiction,
c'est
justement, aux neurotransmetteurs.
Exactement, et ça, c'est l'endorphine qui est en jeu. Ça les fait se sentir bien. Hein, la drogue du coureur. Bon, on ne les comprend pas, mais on sait qu'ils existent. Et donc,
on les juge. On les
bon,
comprend.
Mais bien sûr. Mais on les juge.
Ils cherchent un peu.
Sur un moyen temps, un moyen temps, tout un temps. Et donc, ce qui se passe au niveau donc, des psychotropes, c'est que les psychotropes vont venir, là, pardonnez l'expression, vont venir fucker le chien.
Oh mon Dieu.
Dans la transmission de neurotransmetteurs. De plusieurs façons. Il y en a qui vont, par exemple, créer une production anormale de certains neurotransmetteurs. Par exemple, la cocaïne va nous faire créer plus de dopamine, n'est-ce pas? Donc,
j'en
on a les messagers de la récompense très, très élevés.
Cocaïne.
Donc, quand on prend de la coke, on a l'impression qu'on se donne une récompense.
Ben oui,
et donc, il y aura ensuite, par exemple, des drogues qui vont bloquer le passage de certains neurotransmetteurs. Par exemple, bon, si je pouvais vous donner un exemple, bon, je vais prendre dans ma liste d'exemples, ce sera très vulgarisé, je m'en excuse.
C'est pour la plèbe, c'est pour
on
la
comprend,
plèbe.
Mais
oui,
nous, on se comprend,
voilà.
On est là pour vulgariser.
Bon, j'ai le goût d'arrêter là, nous, on se comprend. Donc, il y a aussi des drogues qui vont empêcher le système de bien vidanger les neurotransmetteurs qui viennent d'être utilisés, parce que ça, c'est très, très important. C'est que quand un neurone donne des neurotransmetteurs à l'autre, donne l'information, ensuite, il y a un système de vidange qui se fait. Il les reprend et les élimine.
Je mange
des drogues qui font non. on va les laisser plus longtemps dans le système.
C'est comme la drogue.
Et l'alcool, déjà, ce niveau cellulaire, là, on a parlé récemment, il y a eu une étude très controversée, n'est-ce pas, sur les effets de l'alcool. Ça a choqué vraiment tout le monde, là, de se faire dire « gérez-vous », sachant que c'est nuisible. Mais ça agit à ce niveau cellulaire-là dès la première goutte. On ne peut pas le nier, en fait. Hein? Voilà, gérons-nous sa chance-là, mais on ne peut pas le nier scientifiquement. Et donc, sa chance-là, moi, j'ai le goût, là, je ne sais pas si je...
Bon. Il te reste encore un petit peu de temps. Parce que
alors, cadeau pour vous à utiliser dans les parties. Je pense que vous allez aimer ça.
Quand tu as dit ça, je pensais que tu avais de l'LSD sur toi.
C'est presque aussi le fun, les Nicolas. C'est que pour avoir la même popularité de la personne qui fait des nœuds avec une queue de cerise là, ou la personne qui a un truc de carte, je vais vous donner le calcul pour calculer soi-même son alcoolémie en tout temps,
de façon
mobile. D'accord? Vous allez être complètement mobile.
J'adore les faits.
Alors, on va commencer par le taux d'alcool consommé. Ça, c'est important. Par exemple, vous êtes dans un bar, si vous recevez un verre de vin ou une bière ou une shot de fort, bon, c'est toujours le même taux d'alcool, une consommation qu'on dit standard. Alors, tout ça contient 13,1 grammes d'alcool par consommation. On va les additionner, n'est-ce pas? Ça va nous donner avec le total de consommation qu'on a pris. Deuxième point, on va mesurer notre volume d'eau corporelle en tant que buveur. Et là, je m'excuse, là, c'est genré, le calcul est genré. Pour un corps d'homme, c'est 0,68 litres par kilogramme. Et pour une femme, 0,55 litres par kilogramme.
C'est physiologique, c'est pas un billet.
C'est
une grande marge quand même, là.
Voilà. Alors, vous allez multiplier ça par votre poids en kilogramme. Alors, jusqu'à date, là, tout le monde suit, évidemment.
Bien sûr.
Ben oui, bien sûr. Alors, troisième étape, et là, c'est là que vous allez devenir très populaire. Alors, vous allez calculer votre alcoolémie maximale théorique. Donc, vous allez prendre votre total d'alcool consommé qu'on a multiplié tantôt, là, hein, fois 13,5 grammes, et vous allez diviser par votre volume d'eau corporelle, le calcul de l'étape 2, et vous allez multiplier tout ça par 100 pour un résultat en milligrammes par 100 millilitres de sang.
Qui est le fameux taux d'alcoolémie qui est...
Pas tout à fait, parce que l'étape 4, c'est de mesurer l'alcoolémie finale. Parce
j'ai du sang dans
vous
mon
savez,
sperme.
La seule chose qui fait dégriser, c'est quoi?
Aussi.
Le temps.
Le temps est l'unique chose qui nous fait dégriser. Un café, une douche, ça ne vaut rien. C'est le passage
du
temps.
Moi, je bois jamais de café, je prends
Et
de
l'alcool
douche,
s'élimine ça. De façon régulière dans le sang à mesure que le temps passe. Donc, mettons que nos trois drinks, on les a pris à 19h, puis il est rendu 22h, il faut soustraire. Avec la demi-vie de l'alcool, et ça, on facilite les choses. Là, c'est 15 mg par 100 ml de sang qui s'écoule par heure.
Calcul mental et le taux réjoué.
C'est presque basique. Le total en milligrammes par 100 ml de sang va vous donner votre alcoolémie. Et le fameux 0,08 qu'on appelle, c'est en fait 80 mg par 100 ml de sang. Et donc, sachant cela, là, vous pouvez là, rapidement vous faire des amis en calculant leur alcoolémie. Et voilà, j'ai pas à vous souhaiter bonne chance dans les parties. Vous allez déjà être populaire.
Merci, Nicolas.
Merci. Bravo, Nicolas. Vous voyez, c'est une
bonne merci.
On a eu nos premiers commentaires là, sur Internet et quelqu'un dit de ne pas oublier l'effet Mélanby là-dedans, là, hein, dans la consommation d'alcool. Évidemment, on sait tous ici ce que c'est. L'effet
Mélanby, on y tâchera.
Pas besoin de l'expliquer.
On y tâchera.
Ah, voilà, c'est ça
que à côté de l'effet Granby.
C'est ça, voilà.
Oui.
Ben merci Nicolas, je suis un peu déçu par le truc parce que les calculs mentaux mathématiques sont ma kryptonite. Je pense pas que
on peut s'aider de la technologie moderne.
Oui.
En sachant les paramètres qui sont très faciles, Nicolas. Mmh.
C'est vrai que les paramètres, ça.
Paramètres,
merci.
Paramètres, c'est rien.
Ouais, pour que ça soit plus simple, là, allez-y avec une métabolisation de l'alcool à 10 mg par heure. Donc comme ça, c'est plus facile à calculer. Puis en plus, c'est le taux le plus lent. Donc, si vous êtes lent, ben vous êtes correct. Puis si vous êtes plus vite, ben vous avez juste moins que ça. Donc,
Faut assumer que les gens sont lents, de toute façon. C'est vrai. Tout le monde gagne.
Mais merci, Nicolas.
Ma kryptonite,
je ne peux qu'encourager. La prise périodique de psychotropes est absolument essentielle. C'est la découverte de soi et du monde. Tu sais, on est toujours pris avec nos pensées. Puis nos pensées sont souvent stupides, idiotes, pleines de mensonges, des espèces de chimères maladroites, mal filmées, mal scénarisées qu'on se raconte. Et là, de pouvoir sortir de là un peu avec un petit peu de psychotrope qui vient changer ça un petit peu, on peut voir, OK, je n'étais pas le plus aiguisé de...
voilà.
plus exigé de l'Église, ça se dit pas, là, mais
on peut le dire. Si on
veut. En tout cas, on comprend le concept. Ah, ouais, hey, merci. Voilà. Merci.
C'est un couteau dans l'Église. C'est un épée, dans le fond. C'est ça qu'on veut dire.
Avec quoi est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on poursuivrait pas, justement, avec un petit peu de philosophie terrifiante, je pense.
Ah,
là, on a eu du fun.
Oui.
Ben, là, c'est temps d'avoir peur.
C'est le bon question. J'ai une question avant tout, c'est que...
Plus qu'il le faut.
Mon, le cap que je porte en ce moment me serre énormément la tête. Et
moi aussi.
Je me disais, si je l'enlevais, est-ce que je devenais conformiste ou anticonformiste?
Oh, non, mais c'est, tout est dans les raisons.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est vrai.
Pourquoi tu l'enlèves?
C'est parce
pour le confort.
Ouais, voilà. Donc, mais conformiste.
Là, on va
un jeu d'esprit.
C'est vrai que le conformiste est confortable.
Ben, voilà. Ben oui.
C'est réglé.
Ben, c'est une expérience hein, qu'on est mais en train de faire tous ensemble, hein, n'est-ce pas, Nicolas?
Il faut se découvrir.
Moi, ma couche est pleine. Faut-tu la changer?
Ah ben, il reste juste 25 minutes. Fait que ça va aller.
Tu vas aller. Tu peux t'endurer, Nicolas.
Je passe pas du crayon permanent parce que ça passe à travers les sourcils.
Ben ouais.
Oups.
Les sourcils ont passé à travers la peau.
Alors, tu nous parles-tu le thème pour Nicolas et la philosophie terrifiante?
Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes!
Moi aussi, je vous mentirais pas là, que je mentirais pas que je commence à avoir un sérieux mal de tête avec ce bonnet.
C'est beaucoup de réflexion aussi.
Ben c'est ça, on
cogite.
On n'est pas habitué d'avoir autant de savoir absolu, ultime, complet et
éternel.
On avait dit qu'on allait
sauter 5 minutes.
Autant de fois.
Non, c'est ça.
C'est peut-être que c'est trop.
Est-ce que ça peut être trop? Est-ce qu'il peut y avoir trop de savoir?
On peut saturer, bien sûr, mais
il y a jamais trop de savoir.
Il y a quelque chose qui se sédimente malgré tout. Donc après ça, on peut le revisiter, puis là, on a une petite base.
Ben merci Nicolas de me rassurer. moi j'ai Nicolas. Une chronique pour vous là. J'ai fait de la MDMA avec Marianne en fin de semaine. Là, puis,
j'avais dernière MDMA.
J'avais encore avant que je la libère.
On va toujours s'en rappeler.
J'avais encore des effets ce matin. Alors j'ai
décidé
de faire
un grand bal.
Un grand bal. On voulait faire exactement un grand bal de Dawson encore une fois.
Un breaking bal.
On essaie de revivre
toutes les breaking balls.
On essaie de
fait
revivre
un bal.
les moments précieux qu'on a ensemble. C'est jamais pareil. C'est de moins en moins intéressant. Bref, j'ai fait un peu de champignon magique là pour balancer. Là, ma consommation de MDMA dont j'avais encore des relents mais ça n'a pas fonctionné. Fait que juste avant de partir pour ce soir, j'ai fait un peu de LSD histoire de reprendre le contrôle, mais là je suis comme complètement terrorisé par ma propre existence là. Puis ça m'a donné le coup de vous faire un top 5 des philosophies les plus terrifiantes.
Excellente idée.
Normalement je trouve que les top 5 c'est assez puéril là, mais je suis assez défoncé pour m'abaisser au niveau de la plèbe là.
Parfois il le faut,
le pouvoir des chiffres.
Alors ben, comme vous aimez faire là, les paysans là, à la maison, numéro
5.
C'est ça. Le nihilisme, hein. On va commencer avec un classique. Il y a plusieurs formes de nihilisme, là, mais souvent on va entendre parler du nihilisme existentiel là, qui propose que la vie, dans le fond, n'a pas de sens inhérent. T'sais. On est et on ne nous dit jamais pourquoi on est né et puis un jour on meurt. T'sais, c'est pas plus grave que ça. On ne l'a jamais su. Il faut savoir que pour nous, l'existence précède l'essence. C'est ça qu'on veut dire par le nihilisme. T'sais, c'est-à-dire que si on prend une table, par exemple cette table-là, une table, elle a un créateur. Le créateur a créé la table intentionnellement dans le but d'être une table, ce qui serait donc l'essence de la table. Alors, dans ce cas-ci, l'essence est venue avant l'existence.
Mm-hmm.
Mais nous, en tant qu'humains, on est fait généralement avec beaucoup moins d'intention et de prévoyance, et on existe, et on doit ensuite comprendre pourquoi. Et ça, c'est une grande charge.
Sniff de l'essence.
C'est terrifiant, tout ça. Alors, tu sais, on est confronté à des choix. Est-ce qu'on fait notre propre sens, comme le suggère Sartre ou Nietzsche? Ou encore, est-ce qu'on pourrait embrasser le non-sens et s'affirmer à travers le non-sens, comme le suggère Camus, par exemple? Ouais. Ben, puis il y a une forme encore plus effrayante du nihilisme qui propose aucune solution pleine d'espoir et qui nous laisse avec des sentiments de désespoir, de décadence et de terreur. C'est comme ça que je me sens. Et comme l'écrit David Crosby, une fois enclenché, le processus de remise en question ne peut avoir qu'une seule fin, c'est-à-dire l'érosion de la conviction et de la certitude et l'effondrement vers le désespoir.
C'est
vrai, je suis d'accord. Et bien, ce rejet-là de toute forme de vérité pourrait simplement conduire à des hiérarchies de pouvoir où les points de vue les plus bruyants et les plus arrogants pourraient également devenir les plus appréciés. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Là. Le monde, on perd un peu le point à l'humanité. Et là, on croit ceux qui gueule le plus fort, sans jamais réfléchir à est-ce qu'on croit la bonne chose. Donc, détruisez absolument toutes les interprétations du monde et alors peut-être, un jour, on pourra trouver la bonne. Mais tout ça, c'est terrifiant.
C'est vrai.
Et on est rendu au numéro...
Quatre.
Triangle.
Quatre, le cosmicisme ou l'indifférence cosmique. Mais ça vient de H.P. Lovecraft, voilà. Qu'on connaît tous. Pas
les
besoin
grands anciens.
parler des grands, on a parlé des grands anciens un peu plus tôt au souper ce soir.
Pippi Lovecraft.
Ça peut ressembler un peu au nihilisme, mais avec un accent sérieux sur l'indifférence de l'univers face aux humains et à leurs activités. Dans le fond, l'univers est tellement grand là, qu'on peut pas, il n'y a pas de but supérieur, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur universelle, pas de morale universelle non plus. On peut tous mourir à tout moment, broyés par un astéroïde, ou plus précisément dans le cas de Lovecraft, par une créature inimaginable même pour l'esprit humain.
L'univers est grand, ma queue est petite.
Ben, comme un monstre d'H.P. Lovecraft. Hein, comme Cthulhu, par exemple. Et ben ça, c'est terrifiant, tout ça. Là,
c'est rassurant aussi, comme une couverte chaude dans laquelle on se couche la nuit, en sachant que tout ça n'a pas d'importance.
On est très peu de choses. Hein.
Mais aussi,
tout
pourrait s'arrêter maintenant.
Bien sûr, mais on ne le saura pas puisque ça sera arrêté.
Imagine exactement. Arrêté
à ce moment-là. J'aime ta façon de voir les choses, mais moi, c'est à cause que je suis défoncé, ça me terrifie. Hey, on est déjà rendu au numéro
3.
Ouais, le solipsisme, je sais que tout le monde connaît ça.
Ah, bien sûr.
Je vous pose la question, Nicolas. Là. Nicolas, et si vous n'étiez qu'un cerveau dans une cuve, relié à un tas d'électrodes qui vous donne l'expérience neurologique du monde seulement, comment vous réagiriez?
Je me suiciderais.
Ben, c'est ça, c'est qu'on peut pas le savoir, c'est peut-être ce qu'on vit en ce moment.
Ben, on est dans un solipsisme puisqu'on est pris avec nous-mêmes.
On est peut-être le même cerveau en ce moment.
C'est probablement le meilleur exemple de solipsisme. Voilà.
Nous sommes le solipsisme en ce moment, une illustration du solipsisme. Mm. C'est donc le solipsisme, c'est l'idée que notre esprit est la seule chose dont nous pouvons vraiment savoir qu'elle existe. Mm. Ça, évidemment, ça découle de Descartes, hein, pense, donc je suis. On ne se mettra pas le crâne dans le sable.
On ne fera pas philo 101 ici.
Ça, c'est un type de pensée là, qui peut se manifester dans certains troubles psychologiques comme le syndrome de Truman, hein, tiré du Truman Show. C'est-à-dire de croire que le monde entier est construit autour de notre propre personne, que tous ceux qu'on croise sont des acteurs qui sont rémunérés pour nous, pour notre existence.
Se mettre dans notre chemin quand on essaie d'aller quelque part rapidement.
Exact. Et ça, c'est terrifiant.
Ça fait peur, Nicolas.
J'ai rien compris de ce film.
J'en ferai mine.
Et dans la même veine du solipsisme, il y a aussi l'autre façon de voir les choses qui serait les zombies philosophiques. Ça, déjà, des zombies, ça me terrifie.
Imagine des zombies philosophiques, c'est
encore. C'est l'idée qu'on ne peut pas savoir avec certitude si les gens qui nous entourent, comme vous en ce moment, est-ce que ces gens ont une vraie conscience ou est-ce que ce sont simplement des machines programmées pour réagir en tout point exactement comme un être humain? Okay. Au lieu de ça, les gens qu'on croise ne pourraient qu'afficher les traits externes d'un organisme conscient. Et ça, là, c'est terrifiant, tout ça.
Je pensais que tu allais dire que c'était de ramener à la vie, mettons, Aristote et Platon sous forme de zombies.
Oh non, ça, c'est pas terrifiant. Oh, ça, c'est
un Frankenstein.
Mais surtout, techniquement, ça serait des squelettes.
Exact.
Trop de chair. Ça, des squelettes, c'est terrifiant.
Parce que là, ça a pas de truc. Mais là, tu es emprunté, là.
Oui, numéro 2. L'antinatalisme.
Numéro
1.
Non, mais c'est que l'antinatalisme, c'est qu'on accorde une valeur négative à la naissance. C'est que là, l'humain serait trop intelligent pour son propre bien. Et on finit par générer des théories déprimantes comme le nihilisme et le solipsisme. On peut même imaginer, là, à cause qu'on est tellement intelligent, la souffrance des autres humains. Et on peut penser à notre mortalité à tout moment. D'ailleurs, Zepfe soutient que notre propre instinction est peut-être la seule bonne chose que nous puissions vraiment faire pour nous-mêmes et pour la planète. Hein.
Typique Zepfe.
D'ailleurs, sur un plan plus psychologique, là, David Benatar explique trois phénomènes généraux. Pat Benatar, exact, qui chantait trois phénomènes généraux, c'est-à-dire la tendance à l'optimisme qui, dans notre tête, réorganise constamment notre passé, notre présent et notre futur pour en donner une image plus jolie. C'est ce qui nous fait passer à travers tout ça. Ensuite, l'adaptation qui nous permet de nous adapter à des situations négatives. Et finalement, la comparaison, à savoir qu'on est susceptible de se comparer aux autres plutôt qu'à la façon dont nos vies se déroulent en général. Comme l'expression, tu sais, quand on se compare,
On se console.
Alors, on est devenu donc une espèce
quand
de
groupe. Quand les gens se comparent à moi, ils se consolent.
Bon, ça, c'est sûr.
ça,
dans le fond, on serait comme tous un peu un groupe de chimpanzés bipèdes aimant la vie, mais tout étant constamment suicidaires en même temps.
C'est terrifiant.
Ce que tu dis là.
Numéro
1.
Je devrais me suicider.
La philosophie qui me terrorise le plus, c'est la théorie de la gestion de la peur.
Ça fait peur.
La théorie de la gestion de la peur est placée aussi haut dans ma liste, en grande partie
choix, Nicolas,
à cause de sa conclure. Validité empirique. Ça a été vérifié, tout ça. Les humains, donc, sont trop intelligents pour leur propre bien et on se rappelle constamment notre mort. Mais on a aussi un réflexe biologique d'autopréservation, donc, pour éviter de ruminer constamment sur notre propre moralité, ben, on se développe des structures dans nos vies, que ce soit des structures classées sous l'immortalité symbolique ou l'immortalité littérale. L'immortalité symbolique, ben,
c'est, que quelqu'un le dise,
c'est notre identité nationale, notre supériorité, nos créations, nos legs
sur le monde. Pays!
Alors, que l'immortalité littérale, on va la retrouver plus dans les religions, en se créant des espèces d'êtres qui vont nous faire...
30 secondes, Nicolas. Là. 30 secondes.
Qui vont nous faire passer plus tard à notre mort physique, à une étape supérieure. Mais on croit, on s'est inventé notre propre immortalité pour passer à travers la peur de notre mortalité. C'est ça qui est fou, hein? Et là, le problème avec tout ça, c'est que respecter ces valeurs-là qu'on s'est établies nous-mêmes dans notre cerveau, ben, ça vient souvent en contradiction avec les valeurs des autres, par exemple la religion. Mm-hmm. Et là, quand on entre en religion, ben, notre conception de la vie s'écroule et on vient à vouloir détester l'autre personne. D'ailleurs, il y a un test qui a été fait avec des chrétiens et des juifs. Hein? On mettait les chrétiens ensemble et un groupe test, on leur rappelait leur propre mortalité et après, on demandait d'accorder de la valeur aux gens. Et ceux qui s'étaient fait rappeler leur propre mortalité avaient tendance à penser que les gens des autres religions avaient moindre valeur que eux parce qu'ils étaient remis en question dans leur propre immortalité. Et ça, là... C'est terrifiant.
Mais, oui. Mais c'est ça qui est terrifiant. Je trouve que tu finis avec ça. Ce qui est terrifiant, c'est l'immortalité. Il n'y a rien de plus terrifiant que ça. Vous pensez ne jamais
pour toujours.
Ça donne le vertige.
Toujours être. Puis que les fantômes. Les imbéciles vivent toujours.
C'est la chose la plus terrifiante au monde.
Oui. C'est terrifiant.
Bon, mais là, tu as fini avec quelque chose de très terrifiant. Merci.
Imaginez que nous, Nicolas, vivions éternellement.
Oh, ça, c'est terrifiant.
On pourrait répandre le savoir pour toujours.
Le savoir ne veut pas être répandu. Il veut se cacher. Il faut constamment le chasser.
Ça serait une vie de labeur.
Voilà.
Une vie interminable.
Oui, mais...
Une vie d'immortalité.
Qu'est-ce qu'on veut dire que le savoir veut vivre caché? De quoi qu'on parle, là?
Tu comprends? La vérité se cache, on la chasse comme une petite biche effarouchée. Là, il faut se dépêcher parce que entre Nicolas, on veut prendre le plus de temps possible, comme c'est souvent le cas.
Bon, je comprends.
Mais on a encore des belles chroniques de Nicolas qui nous attendent.
Bon, super.
Et là, je vais retourner dans les hauteurs et aller voir Nicolas qui va nous parler. Ici, j'ai noté d'épée.
Oui, bien sûr, parce que là,
il y a besoin de précision. Attends un peu, on va partir le thème.
Allons-y avec le thème.
Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes.
Un peu plus que 5 minutes, je m'en excuse.
Oui, parce que là, il y a des ignominies qui ont été dites à cette émission par rapport à la double pénétration. Et comme vous vous rappelez, il y a presque jour pour jour, 10 ans, j'avais parlé de fellation à la première émission qui avait complètement traumatisé Sophie. Aujourd'hui, je voulais un peu continuer ce dossier-là et vous parler de double pénétration pour qu'on remette les pendules à l'heure. Donc,
bonne idée.
Il y a un proverbe, exactement. Il y a un proverbe suédois qui dit que le plaisir partagé est doublé. Donc, on peut dire que justement, le plaisir de la double pénétration est un plaisir qu'on peut partager avec soi-même ou un autre, ou comme on le verra, deux autres personnes, et qui peut être doublé pour le partenaire seul ou pour les deux ou les trois. Donc, généralement, on pense au DP comme une double pénétration, donc vaginale et anale d'une femme par deux hommes. Mais en fait, c'est un concept qui est beaucoup plus large que ça,
qui a des
possibilités multiples. Premièrement, c'est la double pénétration, comme j'en parlais, peut être... pratiquée de une à trois personnes. Donc, ça peut être fait par une personne sur elle-même, par un partenaire sur un autre partenaire par deux partenaires sur une troisième personne.
Et donc, la base, il faut au moins une personne.
Exactement. C'est de une à trois personnes.
Tout seul, sans personne.
Une personne avec un orifice au moins, là.
Un seul orifice est nécessaire, en effet, parce que ça peut être sur un orifice ou dans deux orifices.
Voilà, mon orifice, il pue.
Et ces orifices-là, qu'on appelle, que j'ai nommé pour que ce soit plus simple, des pénétrés. Mm-hmm. Donc, ça peut être, évidemment, comme on pense normalement, le vagin, l'anus, mais la bouche aussi compte comme un organe qui peut être pénétré.
Bien sûr. Pourquoi
pas? Et le pénétrant n'est pas nécessairement seulement le pénis. Ça peut être aussi un doigt, une main. Ça peut être un jouet sexuel.
Ça peut être ce genre de mignon.
Ça peut être... voilà.
Ça peut installer son imagination.
Ça peut être des belles petites têtes de nique.
Exactement.
Ben,
et donc, oui. Si on combine tout ça, là, Jonathan va pouvoir nous montrer le graphisme.
On a
54 possibilités, en fait, de double pénétration. Donc,
ça m'intéresse.
On a...
C'est comme un jeu de cartes.
J'aurais pas cru qu'il y avait autant de permutations.
Ben, c'est ça. On a plusieurs choses à explorer. Voilà. Deux doigts dans une bouche, ça compte comme une double pénétration. Donc voilà. L'histoire de cette pratique-là, c'est une pratique qui est millénaire. Comme vous le savez, elle a été représentée dans le Kama Sutra, mais aussi, comme le bon Jonathan va nous le montrer, sur des vases romains. C'est une pratique qui remonte, on peut dire...
À
plus loin que l'homme se rappelle. Au cinéma, sa première représentation est dans le court-métrage de Las Brown en 1970, que vous rappelez bien, Delphia the Greek, qui était une espèce de ramassis de cinq courts-métrages sous le nom Nymphomania.
Je suis en train de réaliser, là, moi je me suis toujours demandé pourquoi des gens, il y a des gens qui aiment tant jouer aux grosses quilles, mais là je réalise.
Oui, exactement.
Ben ça, c'est de la triple pénétration.
La triple.
Ouais. Ben, je vais y venir. Là, vous me devancez, mais je vais y venir.
Oh, mon Dieu.
Donc, c'est une pratique qui est controversée et est assez mal vue, comme on l'a vu à la réaction là, assez viscérale des mâles là, lors de l'émission il y a quelques semaines
fragile,
où tout le monde pensait que ça faisait mal. C'est une pratique que les féministes, dont Bernadette Barton, voient comme, déjà comme homo-érotique. On pense que plusieurs féministes pensent que c'est une pratique qui n'est en fait que pour deux hommes pour pratiquer l'homosexualité à travers la femme, donc le plaisir de la femme serait complètement enlevé de cette pratique-là.
Franchement.
À la limite dangereux pour la femme puisque c'est les hommes qui essaient de connecter à travers le vagin de la femme. D'autres féministes comme Gail Dines irait jusqu'à dire que c'est une pratique assez extrême qui est même misogyne. James Dean, lui, le célèbre acteur porno, défend que ce n'est pas homo-érotique et que c'est plutôt dans l'intention qu'on peut définir si c'est une pratique homo-érotique ou pas.
Je suis d'accord.
Ben, ça, c'est sûr.
Mais quel serait donc l'intérêt viscéral de la double pénétration? Eh bien, pour les hommes, c'est une chance plus... ça augmente les chances d'arriver à l'orgasme de la prostate. Et c'est aussi une façon de s'exciter différemment à cause du contact avec un autre pénétrant, c'est-à-dire soit un doigt, une main, un jouet ou l'autre pénis, évidemment. Mais pour les femmes, en fait, c'est pas vrai que ce n'est pas... que ce n'est pas pour leur plaisir, parce qu'il y a vraiment, là, pour les femmes, une myriade là, de façons d'atteindre le plaisir.
Mm-hmm.
Donc, premièrement, c'est si la femme pratique seule la double pénétration,
je le rappelle.
Ça lui permet d'avoir un certain sentiment de contrôle sur sa sexualité. Par exemple, avec l'utilisation d'un double dildo, où là, ben, justement, le pénis de l'homme devient totalement inutile. Ça lui permet aussi d'avoir une jouissance à travers la perte de contrôle. Mais le plus intéressant, c'est une stimulation de ses autres points à l'intérieur de son vagin. Donc, Jonathan peut nous montrer, on parle souvent du point G, mais il existe évidemment le point A qui est dans le cul-de-sac vaginal entre le cervix et la vessie, qui est ce qu'on appelle plus couramment la prostate féminine, mais aussi le point PS qui est près de l'éponge périnale. Et ça, quand on stimule par la double pénétration, tous ces points-là peuvent être stimulés
en même temps.
Et donc emmener à des orgasmes assez phénoménaux. Ben, et tout ça sans, je vous le rappelle, la présence d'un homme. Évidemment, bon, la double pénétration a quelques dangers. Ça peut être douloureux si c'est mal fait. Il peut y avoir une transmission du TS. Ça peut créer des micro-lésions aussi. Mais si on suit quelques principes de base, eh bien, ça peut nous emmener à des sommets qu'on n'a jamais expérimentés. Donc,
comme
par exemple,
l'Everest.
Premièrement, ben, si on utilise une bonne communication, qu'on utilise un safe word, qu'on partage nos intentions avec notre partenaire et qu'on fait bien évidemment des tests d'ITS avant, ça peut très bien se passer. Mm-hmm. On peut commencer seul, soi-même expérimenter. On peut commencer avec des plus petits, pénétrants, y aller lentement, utiliser beaucoup de lube, ajuster sa position en cours de chemin. Et justement, évidemment, le plus important, c'est la sécurité. Donc, si on ne mélange pas pénétrant et pénétré, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'orifice en cours de chemin, on sait que c'est très dangereux. Mm-hmm. Si on rythme bien... Exactement. Oui, puis il y a aussi, évidemment, là, des bactéries d'un endroit à l'autre. Là. On ne veut pas mélanger un anus et un vagin. Non, c'est
comme
très
déporter des
femme.
Gens sans leur autorisation.
Exactement.
Ou
c'est pas vrai que ça se règle
c'est
avec
la
C'est vraiment la meilleure métaphore.
Pas trouvé
exactement. Et si on porte plus attention au rythme...
La double pénétration, c'est comme les Acadiens.
J'aurais pas fait le parallèle, mais en même temps, je le fais. Si on y va avec un rythme assez similaire, mais en alternation, pour éviter trop de dilatation, et qu'on se met dans une assez bonne forme physique, puisque c'est assez acrobatique, eh bien, comme je disais, la double pénétration, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre à nous et qu'on peut explorer seul, en duo, en trio, pour son plus grand plaisir.
Moi, c'est seul.
Moi, j'ai tellement fait de drogue là, que je pourrais recevoir de la triple pénétration en ce moment.
Mais il faut que tu fasses attention.
Mais
malheureusement, je suis détendu, c'est l'enfer. Oui.
Déjà défoncé en plus.
C'est ça, c'est comme les psychotrocs. Si c'est fait avec respect, avec intelligence, si on fait ses recherches,
avec communication,
on s'ouvre à un nouveau monde.
Et voilà. L'écoute, toujours l'écoute.
Toujours se faire des expériences.
Ça m'a fait vraiment
toujours
plaisir.
J'ai appris des choses, Nicolas.
Merci. Hey, il nous reste très, très peu de temps. Donc j'aimerais laisser la place.
Il y a très peu de mots là-dessus.
J'aimerais laisser la place à une facette surprise de Nicolas. Alors, Nicolas, tu peux partir le thème. On a. Le dernier petit Nicolas.
Savoir absolu, c'est le petit Nicolas. Complet, en 5 minutes.
Avec ses deux rangées de sourcils.
Ah non, t'es mon Nicolas.
C'est une partie de nous, faut l'accepter.
Alors, j'ai écrit génie sur mon gilet.
Mais non, c'est écrit idiot.
I-D-I-O-O-T, génie.
Idiot.
Parce que je suis un génie.
C'est vrai, ça.
Juste préciser que je suis zoophile.
Ça, c'est bon.
En effet, je mange des crottes de chien.
Des crottes de chien.
Marianne est partie avec mon ami François Gagnon.
Le gars des One It Wonder.
Ça, c'est là.
Parti du gars des One It Wonder.
Le gars, mon seul ami, le gars des chroniques des One It Wonder.
Elle est partie à Québec.
À Québec.
Okay. Au Colisée du Livre.
Oui. Oui.
De Québec.
Il m'a appris plein de One It Wonder, comme Metallica, okay. Madonna,
les trois accords.
Et les Beatles, et les trois accords. Alors, c'est François Gagnon. J'aime Donjon Dragon, en effet. J'aime les D10 et Star Trek et les orques. Et les magiciens.
C'est flatteur, en tout cas.
Fais juste préciser.
Je trouve qu'on fait preuve de beaucoup de vulnérabilité en ce moment.
On s'ouvre.
On s'ouvre.
C'est
faut
bon.
Montrer toutes les facettes.
Cette partie-là de nous, c'est comme un peu dans Dragon Ball quand Dieu s'est séparé avec Piccolo. Mm. Il a mis toute sa méchanceté. Tu sais, toute cette idiotie-là, toute cette petitesse, il a fallu qu'elle aille quelque part.
Elle a été là,
mais il faut la regarder puis il faut la chérir parce que vous savez ce qui arrive? Piccolo, à la fin, ben, il a sauvé plein de gens.
Mmh. Eh oui.
Quand il voulait rendre service à tout le monde puis me suicider.
Ben, c'est un peu le sujet du film de Lars von Trier, hein, Les idiots.
Mmh. Parce que,
Il faut laisser l'idiot en nous prendre le dessus parfois, mais c'est vrai que ça peut mener à toutes sortes de dangers, par contre. Hein. Ouais. Le film nous l'enseigne.
Mais c'est
pas réprimé non plus.
Non, mais ça prend de l'altérité pour se comprendre. Puis ça, c'est l'altérité.
Exactement. Ouais. François Gagnon, j'espère que tu fais bien l'amour à Marianne, parce que moi, je suis pas capable.
C'est toutes nos insécurités aussi.
Oui, c'est ça aussi.
Tout ça se retrouve concentré dans une seule chose.
Que je bande plus, même si j'ai l'air d'une queue.
Mais on sent une poésie encore.
Oui, exact. La poésie
est
partout.
Elle est présente encore.
En dedans de chacun de nous.
Oh, j'ai fait gaga.
C'est klaxon.
Ça, c'est vrai par contre.
Ça, c'est une vraie crainte qui arrive parfois.
J'ai juste à préciser que Julien est vraiment formidable. que c'est un bon ami et que je dois tout à Julien.
Parfois, notre vision de la vie peut être distorsionnée.
Ben voilà, c'est ça que ça nous apprend aussi.
Exact. Merci
voilà.
Julien de m'avoir donné l'opportunité de parler devant un micro.
Ben merci,
que...
merci Nicolas. Merci, je vais devoir t'interrompre parce que je veux qu'on ait le temps de faire un post-mortem.
Ah oui, un post-mortem, c'est important.
Parce que j'ai une chronique sur la politique thaïlandaise.
Non, mais on se gardera ça pour la prochaine fois. Le sauce 5555 ne va pas devenir dans le
premier ministre Anand Panyarachun.
Oui, oui, non, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave, Nicolas. On se garde ça.
Je pense que c'est dans 20 ans.
2 mars 91 ou 22 mars 92.
Mais écoutez, on doit se laisser, malheureusement. On arrive à la fin. À la fin de ce beau périple. Et tel un ouroboros qui se consomme lui-même.
Il se mange sa propre queue.
Je pense exact. Qu'on a vu toutes sortes de facettes. T'sais. On oui, a vu, on a vu cette passion-là pour le savoir. On a vu cette combativité-là dans l'adversité, cette magie-là dans la poésie, dans les petites choses, les peurs qu'on regarde en face, nos fascinations pour des pratiques qui ont des préjugés ou toutes sortes de choses, notre combativité dans c'est l'absence d'écoute. On a tous senti ça. Puis je pense que t'sais, on peut pas, on va pas se donner 10 parce qu'il y a personne qui mérite 10.
Mais non, pas ça, les prétentions là.
Mais on se donne 9. Je pense que un beau petit
un signe de l'infini, moi je dirais hein.
Ah,
un
savoir
infini.
Oui.
Ah oui. Ah, non mais tu sais,
ouais. Ben,
on est
brillant.
Là, on est brillant.
Félix Leclerc.
Donc c'est indéterminé.
Ouais.
Parce qu'on n'arrive pas, quand on le détermine, ça disparaît. Donc
faut que tu le montres à la caméra.
On va rester indéterminé. Comme ça. Donc, soyez bien indéterminés, les amis. Oui. Puis, à on se voit la prochaine fois. Merci à Nicolas.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas.
Merci
Nicolas.
Bravo
Nicolas.
Bravo
Nicolas.
Bravo
Nicolas.
Bravo Nicolas.
Merci.
Bravo Nicolas.
Bravo Nicolas.
Bravo.
Plus de rue de plus les gabarres, plus politique, plus la paix, décide. Ha ha ha, loft.